on échappe ma tablette à terre. Bon matin, bon vendredi sur les ondes de Chiz. 94.3 à Québec et de CFAC, 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Ça pourrait avoir l'air d'une blague, mais semble-t-il que non. C'est très méchant de la manière que je l'introduis, mais une fois n'est pas coutume, on va dire ça comme ça, c'est officiel. Martine Ouellet sera de la course contre François Legault aux prochaines élections. Elle annonce aujourd'hui son retour à la vie politique après à peine un an et demi de pause. Après avoir été critiqué de tout le monde, d'avoir été désavoué par tout le monde, d'avoir été expulsé, entre guillemets. Ben, on y a montré la porte. Là, je pense pas qu'on l'ait vraiment démis de ses fonctions. En tout cas, elle était problématique et elle revient en tant que chef du nouveau parti Climat Québec en vue des élections de 2022. La politique au Québec vit présentement une grande redéfinition. Un très grand bassin de citoyens ne se reconnaît pas à l'intérieur de l'offre actuelle. Il y a un écart de plus en plus grand qui se creuse entre les aspirations des citoyens et les agendas des partis politiques, trop souvent au service de l'élite économique. Face à l'urgence climatique, nous devons nous rassembler. Dans un communiqué qui a été envoyé ce matin des mots de Martine Ouellet. Il y a des vidéos sur Facebook qui commencent à apparaître. Le Québec a largement les ressources, le génie, les compétences qui nous permettront d'opérer ce changement de cap essentiel et devenir un pays leader pour faire face à l'urgence climatique. Donc, c'est un parti souverainiste. Et c'est un parti écologiste, donc l'indépendance et l'énergie verte, j'ose croire. Ok, c'est pas. Je pensais que c'était. Je pensais que c'était une autre actrice, mais ça va. C'est... Sylvie Legault et Justin Tachereau auraient été vus dans la vidéo de promotion de Martine Ouellet. Pourquoi pas? Cette nouvelle formation politique aura pour ambition de présenter des candidats dans l'ensemble des 125 circonscriptions. Beau défi. L'environnement sera au cœur des propositions du Parti indépendantiste. Donc, c'est une combinaison entre un peu le PQ et le Parti vert. Avec un petit peu de bloc, vu que Martine est quand même allée un petit temps au Bloc québécois. Dans le texte fondateur de ce nouveau parti mis en ligne vendredi, on lit notamment que le Canada sabote les capacités du Québec à se déployer efficacement pour le climat tant que notre démocratie ne disposera pas de tous ses leviers et pouvoirs qu'elle devra se faire complice de les responsabilités canadiennes, eut égard à notre statut provincial. Aucun plan d'action pour contrer la crise climatique ne pourra véritablement s'accomplir sur le territoire québécois. Donc, l'indépendance pour mieux gérer l'environnement. C'est ce que promet Martine et a également le pouvoir, la mission ambitieuse de trouver 124 autres candidats pour les autres circonscriptions, en plus de la sienne. Si justement Éric Duhaime avait déjà ce défi-là avec le Parti conservateur du Québec, Martine Ouellet va l'avoir aussi, de trouver autant de gens qui vont vouloir participer. En juin 2018, Martine Ouellet avait annoncé sa démission du poste de chef de Bloc québécois. Voilà, elle a démissionné lors d'un point de presse à Montréal, au lendemain d'un vote de confiance où à peine 32% des militants du Bloc québécois avaient voté en sa faveur contre 65% des membres qui s'y étaient opposés. Et en mars de la même année, 7 députés du Bloc québécois avaient démissionné de l'équipe du Bloc, de l'équipe de Martine Ouellet, pour son attitude intransigeante et sa vision dogmatique à la défense de la souveraineté. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la politique. Je vais continuer. Rien n'est terminé pour moi, avait alors soutenu le principal intéressé devant les médias en remettant officiellement sa démission. La voici de retour, voilà, pour une élection provinciale cette fois-ci. Martine Ouellette avait d'abord été élue députée de Vachon à l'Assemblée nationale en 2010 avec le PQ. Elle s'était retirée en 2017 pour faire le saut sur la politique fédérale. Ça n'aura duré qu'à peine 2 ans avant qu'on lui demande de quitter, puisque tout le monde, la pratique entièreté du Bloc québécois à ce moment-là avait claqué la porte en signe de protestation contre la poigne un peu trop de fer de Martine Ouellette, on va dire ça comme ça. Donc, elle est de retour, Martine Ouellette, elle est de retour. Restons dans le domaine politique, puisque ça continue à aller mal pour Jean-François Roberge. On a déposé le projet de loi pour réformer la loi 101 hier, en étant très, très fier, du moins en partie, à être très, très fier dans le cas de Simon Jolin et de François Legault. Comme ils l'ont dit, le plus sérieusement du monde, c'est un projet qui sera là pour unir les Québécois. Mais on va rouvrir les vieilles questions entre anglo versus franco, comme à la belle époque. Et on va rouvrir ces plaies-là, hein? Cette guerre-là entre franco et anglo-québécois, en disant que ça va unir les Québécois sur un projet commun. Faire du trouble, je sais pas. C'était très particulier comme citation. Comme le dit si bien Paul Journet, il joue à la fois le Capitaine Québec et le modéré. Il se réclame de l'héritage péquiste et libéral tout en utilisant les deux mêmes partis comme repoussoir. Donc, il est le digne successeur de René Lévesque, il est le digne successeur de Maurice Duplessis. Ben ça, c'est plus les conservateurs que les libéraux. Mais en tout cas, tu sais, il est un fier descendant de tous les autres partis, mais il va permettre au Québec de vivre en français. Etc., etc. Donc, voilà, donc François Legault avec ses idées de grandeur, encore une fois. Mais comme il est majoritaire, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Donc, il pourra y aller de l'avant avec son projet de loi, même si tout le monde va faire comme « Ouais, c'est pas terrible. » On s'en fout, il est majoritaire. Ce qui m'amène à ramener encore d'autres fois, une autre fois de nouveaux chiffres, puisque le 10 mai dernier, une nouvelle étude est paru, un nouveau sondage a été publié pour les intentions de vote au Québec. Si une élection avait eu lieu ce lundi, oui, c'était le 10 mai, lundi, et c'est toujours le cas, si des élections avaient eu lieu lundi et que François Legault déclenchait des élections, il terminerait majoritaire. Et avec le pire score qu'il peut faire, donc s'il perdait tous les comtés où c'était chaud au profit des libéraux, de QS et du PQ, il finirait majoritaire. C'est génial. 63 sièges pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. Le pire score qu'il peut faire, c'est 85 députés. Le meilleur score qu'il peut faire, c'est 105 députés, moyenne entre les deux. La moyenne est à 95, plus ou moins 10. Donc, il perd tous ses comtés au profit du Parti libéral et de QS, qui leur en donne respectivement 10 chacun. Et la CAQ est toujours à 85 députés. Donc, peu importe ce qui arrive en ce moment, François Legault est majoritaire. Dans 100% des cas, il est majoritaire. C'est génial. Il sait, en plus. Il sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Fait que pour l'instant, François Legault est là jusqu'à au moins 26. 4 ans. Donc, il est encore là au moins jusqu'en 2026. À moins que vraiment il y ait une hécatombe d'ici la prochaine année et qu'il continue à enchaîner des répliques comme il y a des logements à 500 $ à Montréal. Un peu le nouveau l'épicerie à 75$ de Philippe Couillard, qui lui avait coûté son élection, en partie. Oui, ses décisions, mais d'être déconnecté avait contribué à son à la chute de, du règne libéral. Dans le cas de François Legault, ce n'est pas suffisant pour l'instant. Il nie le racisme systémique. Il nie la crise du logement. On a pu le voir hier à Infoman, comme quoi il esquive les mots « crise du logement ». Son parti également esquive l'appellation « crise du logement ». On manque de logements, mais ce n'est pas encore la crise. Parce qu'il y a des gens qui font la file devant des appartements à 50 à faire la file avec des CV pour montrer qu'ils sont les meilleurs à être les locataires d'un logement. Ce n'est pas de la crise, non, non, non. Mais il y a des logements abordables, semble-t-il. Rapidement, ben pour les autres, Parti libéral, c'est l'île de Montréal. Québec solidaire, c'est l'île de Montréal, Sherbrooke et Québec, la circonscription de Catherine Dorion. Le PQ est à 2 candidats, plus ou moins 3. Fait que ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien pour le Parti le PQ en ce moment. Les meilleurs appuis pour Éric Duhaime. On a rajouté Éric Duhaime, c'est évidemment la grande région de Québec. Où? Oh, ça c'est fascinant par contre. Ça c'est fascinant. Si on se fie au dernier sondage, pour la grande région de Québec, et ça, bien évidemment, c'est le petit boom qu'il y a toujours à la suite d'une élection d'un candidat vedette. Ça, c'est normal. En ce moment, dans la région de Québec, pour les 14 circonscriptions, la Coalition Avenir Québec est en avance à 53%, suivi par Éric Duhaime à 14%, puis Québec solidaire à 12% et le Parti libéral à 11%. Pour la région de Québec, en ce moment, le top 3, c'est CAQ, Parti conservateur et QS. Mais ça, comme je le dis, c'est le petit boost d'Éric Duhaime. Ça, c'est indéniable. En novembre, les conservateurs étaient à peine à 1,9% des intentions de vote dans la région de Québec. La grande région de Québec, là, donc on a la rive sud également. En décembre, c'était quand même déjà monté à 6%. Ça, c'est quand à peu près Éric a annoncé ses intentions de devenir chef. Et rendu au 11 février, il est à 7,8. Et quand on ramène ça à aujourd'hui, il est rendu à 14,4. Il a doublé. Il a doublé à chaque sondage. Mais concrètement, au niveau des sièges, ça n'en donne pas. C'est un 14% dans l'ensemble de la région de Québec. Comme il n'y aura pas de réforme de mode de scrutin, comme François Legault l'avait promis et signé un papier juste avant l'élection, ou en tout cas l'année avant l'élection, qu'il allait dire qu'il allait le faire, mais qu'il ne le fera pas. En ce moment, dans la région de Québec, c'est vraiment 13 pour la CAQ, 1 pour QS et rien pour les autres. Au nombre de sièges, je le rappelle. Mais ce n'est pas une razzia complète pour la CAQ. Dans Jean Lesage, Catherine Pou... dans Jean Lesage, c'est ça, Zanetti. Il est en danger. Dans Taschereau, c'est au coude à coude. 32 à 36. Donc, dans Taschereau, avec Catherine, ça ne sera pas gagné d'avance comme il y a quelques semaines. Mais ça va être une chaude lutte. Dans le cas de Sol Zanetti, dans Jean Lesage, ça va être beaucoup plus difficile. 39 à 31. Mais le Parti conservateur rentre quand même bien. 12,9. Et, comme pour l'avoir dit à plusieurs occasions dans les précédentes émissions, ce qui va être important dans le cas d'Éric Duhaime pour tenter de se faire élire, parce qu'en ce moment, ce n'est pas chose faite, ça va être de trouver une circonscription qui va lui être quand même favorable. Après ça, s'il réussit à déloger un candidat de la CAQ, il va réussir son pari. Mais pour l'instant, à peu près toutes les circonscriptions où la CAQ rentre solidement, s'il y a plus de 50% des intentions de vote. C'est du 52, c'est du 59, c'est du 55, c'est du 58. Donc, ils rentrent fort la CAQ, peu importe c'est qui en ce moment. Ce pourquoi ça risque d'être un petit peu plus difficile jusqu'à maintenant. C'est pas fait. Mais jusqu'à maintenant, il n'y en aura pas de facile. Jean Talon, 40 à 22, CAQ, Parti libéral. La Pelletrie, 58-59. Lévis, 62. Louis Hébert, 56. Ça va être très difficile. Surtout que la vaccination va bien. Continuez à regarder régulièrement le site. Faut que vous annuliez votre rendez-vous en premier. Fait que c'est vraiment un guess. Faut que vous annuliez votre rendez-vous en premier pour ensuite en réserver un autre. Donc, faut que vous soyez vraiment très rapide ou que vous ayez déjà vos informations de rentrée d'avance. Donc, une fois que la vaccination va être faite, une fois qu'on va atteindre le magique 70 pour l'immunité collective et que tranquillement, pas vite, on va revenir à une vie un peu plus régulière, un peu plus normale, quels seront les arguments d'Éric Duhaime autres que François Legault nous retient prisonniers de nos maisons et est un dictateur sanitaire? Une fois que tout ça sera terminé, quels seront les arguments d'Éric Duhaime pour être le premier ministre du Québec? Ça va jouer pour beaucoup. Mais pour l'instant, la CAQ rentre majoritaire dans à peu près toutes les circonscriptions, sauf quelques petites exceptions, comme Jean Talon, où c'est 40 à 22 pour la CAQ, le plus proche Parti libéral, et la circonscription de Taschereau, que c'est 38 à 36. Mais sinon, en ce moment, la CAQ rentre à peu près majoritaire partout. Et ce sera le défi, pas juste pour Éric, là, ça va être vraiment pour toutes les formations politiques, de convaincre les électeurs que la coalition n'est pas nécessairement la seule option. Parce qu'il y a beaucoup de circonscriptions où ça rentre extrêmement fort. Et ça va être ça le cheval de bataille, d'une certaine manière, à la prochaine élection. Ça va être de réussir à faire « Hey, on existe encore, il n'y a pas que François Legault et sa gang qui en arrachent, tu sais. » Mais bon, pour l'instant, le vote populaire semble indiquer qu'ils sont contents. On doit faire avec. C'est la démocratie dans laquelle on est. Et justement, parce que c'est pas complètement acquis à François Legault qu'il rentrerait très fort, du moins au pourcentage, qu'il réformera pas le mode de scrutin. Parce que quand on retourne... en ce moment, ça serait avantageux quand même. Parce que si on va au grand global, il est à 47%. Fait qu'en représentation de l'Assemblée nationale, non, il n'est pas majoritaire avec un 50, mais il a quand même une majorité de députés qui seraient représentés au pourcentage. Ça donne des munitions, oui, à QS, au PQ, puis le siège d'Éric Duhaime. Mais dans son cas, ça serait déjà un peu moins agressif que d'avoir presque 100 députés à lui tout seul et tous les autres en background qui font comme pas très heureux, mais on n'a pas le choix. T'sais. À 100 sur 125, c'est immense. Il ne l'atteindra pas. Ça serait très difficile. C'est pas comme l'été dernier. L'été dernier, il l'avait facilement à son 100 députés. Mais là, tranquillement, pas vite, vu qu'on, justement, la crise passe, vu qu'on recommence à retomber dans les débats plus usuels, ça devient un petit peu plus difficile d'avoir une majorité absolue. Ce pourquoi il est de retour à 90 députés. Mais c'est quand même beaucoup, 90 députés. Donc voilà pour ça. Voilà le segment politique et analyse de sondage à quelques sens que c'est. On va entendre Blanc manger avec Ghetto Blaster sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Au retour, on continue à parler de l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service jusqu'à midi et jusqu'à 18h. I got an 80s ghetto blaster in my car. I wanna drive to a place so goddamn far. The week passed by so many 9 to 5. Sunny days and music by my side. Yeah, dès le matin j'ai de la musique dans ma tête, yo. Quand je monte le son, y'a rien qui peut m'atteindre, non. J'ai reçu un ghetto blaster pour ma fête, yo. Quand j'appuie sur play, j'bouge avec la vibe. Ça fait jump jump comme les trampolines. Écoute l'album après rembobine. Dans les maisons, dans les 5 à 7. Yo, j'peux faire tourner plein de sons, yo, j'ai plein de cassettes. Ok, j'débarque avec le funk à la master flex. Quand les speakers sonnent, c'est le climo se place. J'fais un thumbs up, yo, ça passe le test. J'veux pas travailler non-stop, j'veux mon ghetto blast. Got an 80s ghetto blaster in my car. I wanna drive to a place so goddamn far. The week passed by so many 9 to 5. Sunny days and music by my side. Check. Dans les 80s j'étais même pas né. Mais mes dance moves sont quand même funnés. Large dans la porte, fais pas bien cogner. Parce que quand on blasse, yo c'est symphonique. Non j'ai pas de charge, j'ai même pas de permis. J'vais être amigo jusqu'à pas au Percy. Yo c'est comme wow, la folle folle passe. Pop pop passe, c'est mon bon au merci. Hey, j'ai ça dans mon bassin, j'fais du beat 9 à 5, j'suis l'hormone, mon cassette, ça fait chier mon voisin. Non pour rien au monde, j'veux changer nos places. Et c'était non-stop que ça fait nos places. Service. Question intéressante qui a été posée dans la presse cette semaine qui demandait est-ce que c'est le début de la fin des galas? Au sens où, bon, en ce moment, il y a une controverse du côté américain avec les Golden Globes qui ne seront pas présentés en 2022 parce que dans les nommés, ça manque beaucoup de diversité. C'est encore très, très blanc comme choix de nomination qui est fait par les journalistes associés. En tout cas, ils ont une espèce de comité de journalistes critiques. Et NBC ne veut pas diffuser le prochain gala parce que, justement, manque de représentation. Et au Québec, pour la dernière année, les cotes d'écoute ont baissé pour à peu près tous les galas, sauf la 10 qui s'est maintenue avec une petite baisse quand même. L'exemple qu'il faut donner, c'est notamment le gala artiste de cette fin de semaine, le gala des Gémeaux également, qui ont perdu beaucoup de cotes d'écoute. Aux États-Unis, les Grammys, les Golden Globes ont échappé à la moitié de leur code d'écoute, ce qui est énorme. Les Oscars ont eu, eux, une érosion de 56% de l'auditoire habituel ou de l'année précédente, mais en même temps, les gens ont dû se dire, ben, j'ai pas vu aucun film cette année, fait que pourquoi je le regarderais? Donc 56%, c'est quand même énorme pour des codes d'écoute. On ne rentre pas dans notre argent à ce moment-là. Dans le cas de nos galas, ben, c'est ça, la disque était cette année à 1 015 000 par rapport à 1 230 la précédente édition, ce qui n'est pas si mal. Mais dans le cas des autres galas, ben, c'est des baisses aussi. C'est vraiment des baisses. Le gala de la disque a eu les meilleures parts de marché, si on le sait. Les galas sont trop longs, plaident certains. Voilà. Ah, les voilà les chiffres. Donc, artistes en 2019, donc le gala des vedettes de TVA, 1 720 000. Cette année, 1 100 000. C'est 600 de moins, c'est beaucoup. La disque 2019, 1 230 000. L'année d'après, 1 015 000. Les Gémeaux, ça c'est à peu près, c'est probablement les pires. 1 539 000 en 2019, à peine 854 000 l'année passée. Les Oliviers en 2019, 1 350 000. Les Oliviers en 2021, à peine 975 000. Fait que tous les galas sont en baisse. Est-ce que les gens sont tannés de regarder des galas? La question se pose. Qu'est-ce qui fait que les gens s'y intéressent moins? Est-ce que justement, est-ce que la morosité en ces temps de galas, en ces temps qu'on fait plus de sorties, qu'on voit plus rien, que ça fait comme « Ah, c'est moins intéressant », peut-être, la question se pose. Mais dans le cas d'un gala artiste, par exemple, pas pour refaire la nomenclature de tout ce qui n'a pas marché dans ce gala-là, dimanche soir dernier, et on ne le dira jamais assez, mais les textes de Guy Jodoin et de Charles Lafortune étaient pourris. Il y avait juste deux auteurs sur ce gala-là, et ça paraissait qu'il y était seulement deux. Normalement, il y a un petit peu plus de gens qui écrivent, et même Charles Lafortune et Guy Jodoin n'ont pas participé au texte. Ça paraissait. C'était pas bon. C'était vraiment pas drôle. C'est comme plusieurs l'ont dit, Martin Matt, qui était le premier gagnant, sur les réseaux sociaux, les gens disaient « Ah, enfin, on va rire. Enfin, quelqu'un de drôle sur la scène. » Tu sais, si les remerciements étaient mieux que les numéros de présentation. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui marchait pas, là. Tu sais, on a essayé d'être méchant, mais pas de la bonne méchanceté, là. Tu sais, c'était juste bizarre, là, tu sais, fait que ça marchait pas. Puis, encore une fois, c'était pratiquement que des gagnants de TVA. Normalement, le gala est un petit peu plus équitable entre les deux postes, mais là, c'était surtout TVA qui gagnait. Et les gens ne savaient pas pourquoi ils votaient. Marc Messier a remporté un trophée et il était pas à l'aise. Il l'a dit sur le stage. « Je ne comprends pas pourquoi je gagne. » On est dit pour La Faille. Ah, La Faille. J'apparais comme trois fois dans cette émission-là, puis ça dure, il y a 8 heures. J'apparais trois fois là-dedans. Je suis pas un rôle principal. Parce que tout le monde pensait que Séraphin allait le remporter. Vincent Leclerc. Parce qu'en plus, Sarah-Jeanne Labrosse, juste avant, Donalda le remportait. Pis c'est la dernière année des Pays d'en haut. Ah, c'est sûr que Vincent Leclerc va l'avoir. Non, Marc Messier. On sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Dans le même genre, c'est Gildor Roy qui remportait rôle dans une comédie, qui est aussi un rôle secondaire dans Lâche et prise, et qu'on soupçonne fortement qu'il gagnait surtout pour Le commandant Chiasson, même si c'est la catégorie comédie. Parce que le problème avec le gala artiste, c'est qu'on ne nomme pas des rôles. On fait juste dire « la personne ». Tandis que si on mettait en parenthèse dans quelle émission ils ont joué, ils et elles ont joué, ça pourrait peut-être faire en sorte que, justement, un Marc Messier, qui est troisième rôle dans une série, ne gagne pas sur des premiers rôles comme Vincent Leclerc dans Les Pays d'en haut, Michel Charette dans Les Pays d'en haut, ou Sébastien... pas d'Avernas, mais Sébastien... dans La Dérape. et aussi District 31 par la bande, mais surtout la dérape dans cette catégorie-là. Et justement, vu qu'on mélange beaucoup District 31 avec les autres catégories, à quel point certains ont gagné parce que c'était District 31 où on voulait les faire gagner pour District 31, la question se pose. Alors voilà. Est-ce que c'est parce que les galas sont pas clairs, comme le gala artiste, ou parce que ben les nommés sont des séries qu'on n'a pas vues, comme les Gémeaux, où il y a de plus en plus de nominations pour les productions qui sont sur l'Extra, le Club Illico, qui sont sur des plateformes payantes, et qu'à ce moment-là, les gens n'ont pas nécessairement vu, parce que dans le cas de la 10, c'est qu'il faut que la série soit sortie entre telle date et telle date, mais n'a pas besoin d'être sortie et diffusée entre telle date et telle date sur des grandes chaînes. Elle doit juste avoir été lancée pendant la période de mise en nomination. Ce qui fait que l'année avant que des séries comme Mon Fils à TVA ou des séries comme... j'allais dire trop, ben oui, trop d'une certaine manière, qui est sur l'extra de tout.tv, est nommé quand la série n'a même pas été vue par le grand public. Tu sais, il y a peut-être des petits twists à faire, parce qu'avant les plateformes, justement, ce qui était nommé dans les galas, on l'avait vu, on savait c'était quoi, on l'avait déjà vu. Mais pas, ah oui, le gala arrive en juin, mais la série est prévue pour diffusion à l'hiver prochain. Mettons, la Maison Bleue, qui était l'automne suivant, il y avait quand même des nominations pour Guy Nadon dans une comédie. De mémoire, me semble. Fait que, tu sais, c'est ça. Ou c'était Anne-Marie Cadieu en tant que première dame. Fait que, tu sais, c'est de ramener ça, peut-être. Ou en tout cas, peut-être changer les règles de nomination. Ça pourrait peut-être aider, mais en tout cas, c'est toujours intéressant. C'est sûr, c'est le fun. C'est des bonnes émissions quand c'est bon. Mais c'est sûr que ça peut rapidement tomber et faire comme « c'est pas terrible ». Mais quand l'animation est bonne, quand les textes sont drôles, quand c'est bien fait, ça peut être le fun à regarder. Prochain gala, gala du cinéma québécois. Et on s'arrête là-dessus. Au retour, on continue à parler d'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Dans le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Bien joué ton tarot de Marseille. Une allumée tes chandelles en cire d'abeille. Quand tu auras brûlé l'encens et parfumé tout l'air ambiant d'une lavande chamane, marché Coyoacan, trouvé à moitié pris, je me lèverai murmurant. Qu'est-ce que je fais ici? Quand le ciel aura jeté sa pluie et son tonnerre, Il restera bien les nôtres à jeter les pieds sur terre. Moi je viens du pays du vent, et toi des immeubles tremblants. Je vois en nous des éléments, si fort, si ténébreux, ce sera impossible. L'amour à feu et à sang, et les yeux dans le vide. Mais mon cœur est déjà emmêlé avec toi, et je ne veux refaire le monde quand je suis dans tes bras. Oui, mon cœur si à moi. Dans nos cœurs, j'aimerais enfin te respirer sans parfum, sans odeur. Je rêve d'une chambre nue où parviennent les bruits de la rumeur folle et anonyme qui la nuit nous anime. Tu as changé ma vie, pars avec moi, je m'en viens. Mon cœur est déjà emmêlé avec toi, et je ne veux refaire le monde quand je suis dans tes bras. Oui, nos cœurs si à moi volent au-dessus des toits, et il n'y a plus de fantômes qui tournent autour de moi. Oui, mon cœur est déjà.
Félix Diotte avec Tarot de Marseille sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Sûrement avez-vous vu passer ça au courant des dernières semaines. Il y a une bouteille à la mer qui a été retrouvée au large du Canada. Et en ce moment, une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski étudie cette lettre-là qui dit provenir du Titanic. Donc, selon la date inscrite sur la lettre, soit le 13 avril 1912, la bouteille aurait été lancée à l'eau à la veille du naufrage. C'est arrivé le 14. La bouteille a été retrouvée par une famille au Nouveau-Brunswick. Et l'objet semble être venu du passé. Mais on s'affaire à analyser le papier, la bouteille. On essaye de vraiment identifier si ce message-là provient réellement d'une passagère, dans ce cas-ci, du Titanic. Une passagère qui se nommerait Mathilde Lefebvre, âgée, normalement, d'un peu moins de 13 ans, selon l'information de Lucar. Parce que le nom qui est signé sur la lettre, Mathilde Lefebvre, correspond à une jeune qui était sur le Titanic et qui... Oui, voilà, qui était sur le Titanic et qui était... Bon, voilà, qui était un enfant de 13 ans. Originaire de Liévin, localité située dans la région du Pas-de-Calais en France, elle voyageait en troisième classe avec sa mère, Marie Dumont, et trois de ses frères et sœurs. Ils allaient rejoindre le père rendu en Amérique depuis 2 ans. Mathilde Lefebvre et les autres membres de la famille qui se trouvaient à bord du Titanic ont bien sûr péri, ont péri, dans le naufrage qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 1912 avec 1500 autres passagers et membres d'équipage. Pourquoi la lettre pourrait être plausible? ou pourquoi ça pourrait être une grosse joke. C'est la famille qui a contacté Lucas pour faire examiner la lettre. Une équipe multidisciplinaire assemblée par l'un des professeurs d'histoire de Lucas, Maxime Goyer, s'est penchée sur ces objets qui sont devenus des objets pédagogiques pour les étudiants. Les professeurs en histoire et en archéologie, Manon Savard et Nicolas Baudry, font partie de l'équipe. Ils expliquent que les observations matérielles de la bouteille et du papier ne permettent pas d'exclure que l'objet ait pu être jeté à la mer en 1912. Le fait que l'assemblage matériel soit compatible avec une date de 1912 ne nous permet pas d'exclure qu'il soit authentique. Mais ça ne le confirme pas non plus. Parce que si on regarde très rapidement la lettre, c'est difficile de croire que c'est une écriture d'une enfant de 13 ans. Aussi bonne soit-elle avec sa calligraphie, à 13 ans, maîtriser une calligraphie de ce genre-là, avec des belles lettres attachées, quasiment fait à l'ordinateur, j'ai envie de dire, mais tu sais, une belle écriture avec des belles lignes droites et tout ça, puis tout est bien enclin sur le même côté, tu sais, c'est très bien fait. Donc, d'où on peut se poser la question, est-ce vraiment une petite fille qui a pu rédiger ça? Ou si c'était une adulte? Mais normalement, quand on se fie justement au rapport des 1500 disparus, Mathilde Lefebvre correspondrait à un 13 ans. Surtout si le père est en Amérique, il est encore capable d'identifier sa famille. T'sais, il sait l'âge, en tout cas on l'espère, qu'il savait l'âge de ses enfants. Manon Savard ajoute que des analyses de datation au radiocarbone indiquent que le bouchon de Liège et le papier qui retenait le bouchon peuvent avoir été fabriqués à cette époque. La bouteille a été fabriquée selon les méthodes employées au début du 20e siècle. Donc, le contenant, on va dire ça comme ça, le contenant de la bouteille, le papier, tout ça, correspond. Mais après ça, est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit ça avec du papier qui date de l'époque, avec une bouteille qui date de l'époque, mais qui a rédigé ça en 98, mettons, quand le film est sorti? Ça pourrait. Quand le film est sorti, 98. Garoche ça en mer, puis advienne que pourra. C'est possible. Ils conservaient des archéologies chez eux. C'est jamais. Le papier est un peu plus ancien. Si on avait eu des dates franchement plus récentes, on aurait pu affirmer que c'est un canular. Donc là, on a des dates qui ne sont pas incompatibles. C'est le plus loin qu'on peut aller dans l'affirmation. Surtout que techniquement, ça a été jeté en 1912 et que la bouteille a été retrouvée en fait en 2008-9-10. Il y a quand même presque un 100 ans qui a passé, que la petite fille aurait réussi à si bien sceller la bouteille que le message est encore pratiquement intact. Bon, il est divisé en deux, mais tu sais, il est encore très lisible. La question se pose. Le fait de confier des messages à la mer est une pratique s'est considérablement développée à la fin du 19e siècle, alors que les voyages transatlantiques se faisaient de plus en plus nombreux et qu'on produisait de façon industrielle des bouteilles. Il ajoute que les journaux publiaient fréquemment des messages trouvés en mer ou sur les côtes, et ce même quand ils soupçonnaient ces messages étaient des canulars. Notre rôle, ça c'est toujours Manon Savard, professeur en géographie et archéologie, c'est d'étudier l'objet en question. Ce processus de message à la mer, ces bouteilles lancées, donc le phénomène lui-même est intéressant. Où ça devient peut-être un canular, c'est que le fait que la bouteille a été retrouvée au Canada. Daniel Bourgault, professeur et chercheur en océanographie à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, l'ISMER, a étudié les courants marins pour analyser les possibilités que la bouteille ait vraisemblablement traversé l'Atlantique, d'où le bateau peut avoir... Ben, en fait,
D'où le message a été lancé à la mer depuis le bateau, parce que c'est pas où le Titanic a coulé, c'était avant. Et que les possibilités que ça ait probablement traversé l'Atlantique pour s'échouer dans la baie de Fundy sont très minces. M. Bourgois a procédé à diverses simulations par ordinateur en partenariat avec des chercheurs norvégiens. Selon ces simulations, il estime environ une chance sur 100 000 que la bouteille ait quitté le lieu où pouvait se trouver le Titanic le 12 avril pour que la bouteille aille s'échouer dans la baie de Fundy. Parce qu'il était dépassé, le Canada. Il était rendu à peu près vis-à-vis... C'est large, là, le vis-à-vis, mais il était rendu vis-à-vis la Nouvelle-Écosse. Il n'était pas encore au niveau du Labrador. Fait que la bouteille n'a pas pu juste se promener puis a réussi à passer tranquillement, pas vite, jusqu'au Canada. Il était un peu dépassé la frontière du Canada. Il était un peu plus vis-à-vis les États-Unis, mais encore très loin en mer, c'est sûr. Une espèce d'intersection Groenland-États-Unis, on va dire. Je veux dire le Maine, mais en tout cas, ils sont pas tout à fait vis-à-vis le Canada. Ils sont un peu passés. Quand on regarde sur une carte plate, là. Fait que les chances qu'elle ait dérivé et remonté jusqu'au Canada, une sur 100 000. D'où le questionnement de est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est juste du papier d'une bouteille d'époque? Ça se pose encore comme question. Mais que le fait que ce soit un passager qui ait vraiment existé sur le Titanic, ça rajoute peut-être au mystère de cette bouteille-là. Daniel Bourgault explique que le courant marin principal qui agit dans le secteur où se trouve alors le Titanic, le Gulf Stream, se déplace plutôt de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Et non pas l'inverse. Donc, normalement, la bouteille aurait dû aboutir en France. Ou du moins sur la côte européenne ou africaine. Ben, dans ce cas-ci, c'est Europe. Donc, revenir au Portugal, en Espagne, tu sais, sur les côtes. La France, à la limite, tu sais. Mais que ça allait aboutir dans l'autre sens, faut que ça ait été chanceux en Moses. C'est moins probable, mais c'est possible que la trajectoire ait pu passablement être différente de ce que le courant moyen du Gulf Stream peut prévoir. Donc, pogne le courant qui ramène vers le Canada, on sait pas. L'hypothèse qu'on fait, c'est que la bouteille ait pu aller sur les côtes canadiennes quelques mois ou années ou deux après avoir été lancée. Selon lui, le fait que la bouteille ait été en très bon état mène les chercheurs à croire qu'elle aurait été enfouie avant d'être déterrée récemment. Donc, qu'elle ait pogné d'un banc de sable à quelque part, puis qu'avec l'érosion naturelle, remis à la mer jusqu'à arriver au Nouveau-Brunswick. D'autres recherches doivent être menées sur le terrain dans la baie de Fundy pour voir comment le secteur a évolué au plan géomorphologique, le mot du jour. L'objectif est de déterminer si la bouteille aurait réellement pu être enterrée, puis déterrée à ce moment-là. Donc comme je le disais, l'intersection, tu sais, vis-à-vis le New Hampshire, le Maine, mais tu sais, on n'était pas vraiment au Canada. Fait qu'elle soit revenue par le creux Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Maine pour échouer au Nouveau-Brunswick. Tu sais, il faut qu'elle revienne. Et le Gulf Stream va dans l'autre sens. Fait que tu sais, il faut qu'elle revienne la bouteille pour se faire ramasser peut-être à Saint John. Tu sais. Après ça, les choix sont multiples. Ou à le staller d'un banc de sable de l'autre côté en Nouvelle-Écosse, puis qu'elle a redérivé par la suite au Nouveau-Brunswick. On ne sait pas. C'est pour ça. C'est vraiment une chance sur 100 000 qu'elle ait fait le voyage direct jusqu'à la baie de Fundy. C'est assez. Ça serait assez miraculeux d'une certaine manière. Resterait à analyser l'encre employée, voir si c'est vraiment de l'encre qui date de cette époque-là. Est-ce qu'on a des cahiers de Mathilde Lefebvre? La famille Lefebvre en France, les descendants, sont évidemment très intéressés à savoir si c'est une de leurs aïeules qui a pu écrire ça. Mais après ça, est-ce qu'on a des cahiers de cette époque-là pour comparer l'écriture, voir si c'est vraiment l'écriture d'une petite fille de 13 ans? Il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères, mais sait-on jamais? Peut-être pouvons-nous avoir un vestige du Titanic. Ce serait cool. Mais après ça, est-ce que ça a été rédigé, comme je le disais, plus probable en 98 après le film, avec quelqu'un qui avait du papier d'époque et une bouteille d'époque, garoche en mer, puis advienne que pourra, on le sait pas. En tout cas, personne s'est manifesté pour dire oui, oui, c'est moi qui ai fait ça. Sait-on jamais. Dossier à suivre. On s'arrête quelques instants. On va aller entendre la nouvelle des louanges avec Pigeon. Au retour, la conclusion de cette émission du 14 mai. Vous écoutez le deuxième service à chez Yacéfac.
J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pour le pardon. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Faisais un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les highs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser trace sur le béton. Micro dans les mains, j'en guérisine sur le carton. Tison brûlant, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pour les parents. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pour les parents. Je resterai le fantôme. Nomade maintenant, mode de vie normal. Mossade parfois les couleurs du voyage. La tournée altère le sens de la morale. BSF parfois ça part en tout mirage. À quand la dernière fois, dernier rattrapage. Les représailles me font peur, mais j'ai quel âge. Assume que t'es parti, après on n'en parle plus. Oh, reste qu'à laisser aller. Laisse aller le post-it. Passer qu'au réclame. Par ici les papiers, repêcher les vues.
Retour au deuxième service. J'hésitais beaucoup à en parler. On va prendre les quelques dernières minutes qui restaient pour parler du fameux Bernard Lachance qui serait décédé en début de semaine de complications suite à des traitements naturopathiques pour essayer de soigner le VIH dont il était atteint. Donc, complotiste depuis quelques temps. Il n'a jamais été un grand complotiste, même si c'est ce qu'il aurait voulu. Et c'est vraiment le mot d'ordre, je pense, c'est que ce personnage-là voulait être une personnalité publique. Il avait tenté de l'être de son vivant. On peut se rappeler de Bernard Lachance pour avoir réussi à convaincre Oprah de le recevoir sur son plateau. Lui, son rêve, c'était de chanter aux États-Unis. Et il vendait ses billets sur son T-shirt. Il croisait les gens dans la rue, venez voir mon spectacle, cochez sur mon T-shirt les bancs que vous achetez et tout ça. Il avait réussi à attirer l'attention d'Oprah. Il avait été sur son plateau. Fait que, il avait fait jaser de lui. Mais après ça, bien évidemment, c'est un stunt, c'est un événement en soi. Mais après ça, il n'a jamais été capable de recréer le buzz. Et comme l'ont analysé plusieurs personnes, ce genre d'individu-là, ce qu'il voulait, c'était être sur les feux de la rampe, c'est d'être connu, c'est d'être une vedette, d'avoir l'attention des gens. Et comment avoir l'attention des gens aujourd'hui? Ben, c'est en disant des trucs par rapport sur Internet, en faisant croire des choses sur les réseaux sociaux. Et il est tombé là-dedans. Lui, son combat, c'était pas les anti-masques, c'était pas la 5G. C'était que la business du VIH, de vendre des médicaments pour que les compagnies pharmaceutiques s'enrichissent et que on n'avait pas besoin de prendre ces médicaments-là. Ce qui avait en sorte que lui disait que ça faisait 3 ans qu'il ne prenait plus la trithérapie, donc les médicaments pour réduire la charge virale du VIH. Parce qu'on n'est pas encore à l'éliminer complètement, mais on peut réduire la charge. On peut rendre les personnes négatives, donc qui ne donnent pas le VIH. Dans le cas de Bernard Lachance, il s'était plutôt tourné vers les produits de santé, les tisanes, les camomilles, les produits naturels, voilà, produits naturels, donc les herbes, les tout ça, en espérant essayer de guérir, je pense. Il niait que le VIH était problématique. Il avait tenté d'aller sur le plateau de Denis Lévesque pour propager son message, mais Denis Lévesque l'avait empêché. Ce qui a fait en sorte que le dernier traitement qu'il a essayé dans les dernières semaines l'avait rendu, comme disait une de ses sœurs en témoignage, l'avait rendu squelettique. Il était méconnaissable parce qu'il avait perdu notamment beaucoup de poids. Et comme le VIH s'attaque au système immunitaire, étant très affaibli, le système immunitaire était diminué. Pour l'instant, ce serait vraiment le VIH, complication du VIH qui l'aurait décédé. A-t-il eu la COVID en étant pas du tout immunisé? On ne sait jamais. Mais il a été invité sur des podcast complotiste comme Alexis Cossette, comme Amélie Paul de Call TV, comme André Pitre, chaîne YouTube, pour lancer son message, pour tenter de faire parler de lui. Mais évidemment, pour les mauvaises raisons, on parlait de lui. Et aujourd'hui, ben, il est décédé. Il est décédé d'avoir cru des gens qui lui disaient « Ben non, prends pas ça, ça te soignera pas, ça va te détruire le système. » Donc, on lui a dit « Arrête de prendre les pilules qui te gardent en vie. » Et c'est ce qui est arrivé. Il est décédé à l'âge de 46 ans d'avoir écouté des mauvaises personnes qui aujourd'hui se dédouanent là, sur les réseaux sociaux. Là, ils disent « Bon, oui, j'y avais dit d'arrêter de prendre ces médicaments, mais le mal était déjà fait. C'était évident que ça allait arriver. Fait que, tu sais, dommage collatéral. » Ils ne prennent jamais le blâme, ce monde-là. Ils ne prennent jamais le blâme. Ils disent « Arrête de prendre une médication qui te garde en vie. » Et après ça, ils viennent dire « Bon, après ça, s'il a pris d'autres produits qui nuisent à son système, il a couru après. » Tu sais, c'est aussi sans cœur que ça de croire aux gourous de complotisme en ce moment, de conspirationnisme. C'est « Ah, oh, ben là, s'il meurt, il a couru après. » C'est pas de leur faute, c'est jamais de leur faute. Et ça, c'est problématique. Ils se dédouanent très facilement d'avoir tué quelqu'un. C'est à ce point-là en ce moment. Et évidemment, ben, ils vont vous demander des dons PayPal et d'autres dons pour faire d'autres capsules et tuer d'autres mondes peut-être. On sait jamais. Donc, triste fin pour ce monsieur-là qui voulait de l'attention, tout simplement, mais qu'il s'est tourné vers, évidemment, la mauvaise église dans ce cas-ci. Et c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour une autre édition la semaine prochaine sur les ondes de Chiz et le CFAC. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM. À Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
en semaine dès 16h à Chiz 94.3.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Bordel en réveilleur, Zen Charles. Boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Staring my shit.